Utopod 009, 1er août 2007, 8 harmoniques de lumière de Joël Champetier, première partie. Bonjour tout le monde et bienvenue à bord d'Utopod, premier podcast francophone proposant des lectures de nouvelles de science-fiction, de fantastique et de fantasy. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir notre premier auteur québécois et pas des moindres, Joël Champetier, qui nous propose une magnifique nouvelle intitulée 8 harmoniques de lumière. Il s'agit d'un space-op paru initialement en 2001 dans le numéro 136 du magazine Solaris. Vu sa taille, nous diffusons ce récit en deux épisodes, la première partie aujourd'hui et la seconde dans quelques jours, c'est promis. Joël Champetier est né en 1957 à La Corne, au Québec. Il publie un premier texte en 1981 dans le magazine Solaris. 15 nouvelles plus tard, il écrit un roman pour la jeunesse, La mer au fond du monde, puis La taupe et le dragon en 1991, roman pour adultes qui sera par la suite traduit et publié aux États-Unis. Son dernier ouvrage, Le voleur des steppes, deuxième opus du cycle Les sources de la magie, vient de paraître aux éditions à lire. Joël Champetier, publié autant au Québec qu'en France, est l'un des grands noms des littératures de l'imaginaire francophone actuel. Il a reçu de nombreuses distinctions littéraires, dont 10 fois le prix Aurora, 6 fois le prix Boréal et en 1995, le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois. Il est également le rédacteur en chef de Solaris, la plus ancienne revue de science-fiction et de fantastique francophone encore en activité. Le lecteur d'aujourd'hui, vous le connaissez déjà, puisqu'il s'agit de l'un des deux éditeurs du Topod, Mark Tiefenauer. Et maintenant, jetez un regard attendri à votre escargot, tâchez d'avoir le sommeil lourd et place à la littérature.
8 harmoniques de lumière, de Joël Champetier. Première partie. 1. Le réel est sublime dans la matière. Il existe des récits antérieurs à celui de Gabriel. Vous tous, jeunes purgateurs à qui nous rappelons ces faits grandioses, ne pouvez ignorer le combat des sacrifiés et leur héroïque lutte pour sauver Latanor, la plus édifiante des gestes préluminiques. À celle-ci s'ajoutent les volumineuses annales de la Terre primitive, archives réservées à nos savants et à nos directeurs de conscience tant il est vrai qu'on ne peut appréhender ce qui y est relaté qu'en s'astreignant à une douloureuse acclimatation au mode de pensée de l'homme primitif. Toutefois, lorsque l'on entreprend le récit de l'arrivée de l'humanité sur Lumière, il convient de le commencer au bon endroit, car, dans sa magnificence, la science a voulu que les registres marquent avec exactitude l'instant exact où tout a débuté. C'est la douleur qui éveilla Gabriel. Une douleur vaste comme le vide de l'espace intersidéral. Vous ne retiendrez pas une larme de sympathie en imaginant l'effroi que ressentit le premier des éveillés lorsqu'il prit conscience qu'il était immergé au sein d'une alvéole de Latanor. Les registres nous enseignent que les premières paroles de Gabriel, inaudibles dans le liquide mais perceptibles par une sonde dans sa gorge, furent « Que se passe-t-il ? » Attention, vous entendrez de ces raisonnements téméraires et perfides qui cherchent à affaiblir inconsidérément votre respect pour la grandeur des premiers éveillés. Ils laissent entendre que Gabriel, en prononçant ces mots, démontra qu'il ne comprenait pas où il se trouvait. Cela est absurde. Si la matrice Athanor avait fonctionné normalement, elle n'aurait jamais permis qu'un des enfants placés sous sa protection s'éveille à la conscience à l'intérieur de l'alvéole, tel un fœtus dans le sein de son père. Au contraire, le premier éveillé avait bien compris, tout en agitant le fluide dans lequel il baignait et en écartant les surfactants qui lui collaient au visage, que Latanor avait failli. Le sens profond de sa question avait évidemment été « À la suite de quelles circonstances funestes Latanor a-t-elle pu faillir ainsi ?» Il est heureux que les concepteurs des matrices eussent prévu l'impensable, que ces dernières puissent faillir. Cela est difficilement concevable pour vous, et certains commentateurs répugnent à rappeler cette vérité. Mais il faut accepter le fait que Latanor, cette bienheureuse matrice qui nous a permis d'éclore sur lumière, a été l'œuvre de l'homme primitif. Certains en sont troublés. Nous ne le devons pas. N'est-il pas vrai que du plus humble des terreaux surgiront l'arbre et le blé ? S'il est impossible de nier que le premier berceau de l'humanité a été construit par les mains souillées des anciens hommes, nous nous souviendrons que leur guide était le même que le nôtre, la science une et indivise. Athanor, réponds-moi, fut la seconde imploration de Gabriel, phrase qu'il répéta par trois fois, sans que jamais Latanor ne lui réponde. Et le premier acte conscient de Gabriel, le premier acte consigné de l'histoire de Lumière, fut l'accomplissement du rituel d'urgence pour se libérer du saint nourricier et protecteur devenu prison. L'alvéole s'ouvrit. La couche de réanimation ne s'étant pas mise en place, le premier réveillé tomba sur le plancher de la matrice dans un flot de fluide nourricier. Contus par le choc, Gabriel expulsa de ses poumons l'humeur glaireuse de l'alvéole. De l'air s'infiltra dans sa poitrine, qui depuis le départ des matrices n'avait connu que le fluide. Gabriel aspira profondément. Son premier souffle devint un gémissement, car c'est dans la douleur que l'on est, et c'est dans la douleur quand l'on revient au vivant. Les registres nous enseignent que Gabriel continua de respirer, frémissant et secoué de spasmes, pendant 137 secondes. Dès qu'il fut en mesure de contrôler ses gestes, ayant compris que si la couche de réanimation n'était toujours pas en fonction, cela signifiait qu'elle ne le serait jamais, il fit ce que vous tous, jeunes purgateurs, feriez en pareille circonstance. Il arracha toutes les sondes qui s'enfonçaient en lui. Chaque extraction fut une brûlure. Sa chair, tendre comme celle du nouveau-né, se déchira en plusieurs endroits et un sang pur baptisa le dur plancher de la matrice. S'il existe des hommes qui peuvent imaginer, sinon connaître, les souffrances qu'a ressenties le premier réveillé en étant expulsé d'une alvéole sans le réconfort d'une couche de réanimation, c'est bien vous qui m'écoutez en cette heure et ce lieu. Et prions tous que la science, dans son infinie miséricorde, vous épargne ce supplice lorsque vous vous réveillerez là-bas, sur l'autre rive de l'océan de la nuit. Pendant les 1000 secondes qui suivirent, Gabriel resta prostré au sol, laissant le temps de s'atténuer à la douleur qui irradiait de chacune de ses articulations, de ses poumons et de son épiderme meurtri. Par trois fois encore, il implora Latanor de lui venir en aide. Ses appels demeurèrent sans réponse, et comme le premier réveillé l'écrira plus tard dans ses mémoires, ce sentiment d'abandon lui fut plus pénible que tout ce que sa chair endurait alors. Gabriel consacra ensuite ses premières forces à bouger la tête, espérant distinguer le long du couloir un îlot de lumière semblable à celui qui émanait de son alvéole ouverte. Hélas ! Le couloir, qui s'élançait de part et d'autre de son corps prostré et nu, n'était hanté que par la noirceur et le silence. Lentement, après d'innombrables tentatives et plusieurs chutes dont les registres ont conservé le bruit, il réussit à se mettre debout, comme initié à un homme. Ainsi se termine le récit de l'éveil de Gabriel. VIII. La matière est sublime dans la vie. Il est aisé, à écouter les registres soigneusement conservés depuis l'arrivée de l'humanité sur Lumière, de se représenter Gabriel, le premier éveillé, marchant le long du couloir de la matrice endormie. On reconnaît avec émotion un frottement de pieds nus, hésitant, certainement sensible, sur le plancher du couloir. On s'émerveille aussi de la rapidité avec laquelle la démarche de notre premier ancêtre se raffermit. Sur les sentiments qui, fatalement, lui agitaient l'âme, les registres sont évidemment muets. On devine que Gabriel devait être en proie à l'angoisse, livré aux réflexions les plus inquiètes sur l'état de Latanor. Comment aurait-il pu en être autrement ? Gabriel marcha dans l'obscurité complète pendant plus de 3000 secondes, appelant à l'aide d'une voix de plus en plus abattue. De sa main tendue, il reconnut à leurs aspérités les portes des autres alvéoles, toutes scellées, chacune protégeant toujours un de ses frères. Lorsque devant lui, une pâle lumière bleue repoussa les ténèbres, Gabriel n'en éprouva nulle joie, nul soulagement. Il avait calculé, sans même en avoir conscience, que ses pas l'avaient ramené à son alvéole. Il était possible de faire jaillir la lumière de façon manuelle. Gabriel le fit. Puis il s'habilla avec les vêtements qu'il attendait depuis le départ de Latanor. Il descendit à l'étage extérieur, où il fit également jaillir la lumière. Là l'attendait une vision qui, eût-il été d'une trempe moins solide, aurait pu le terrasser définitivement. Il s'agissait bien entendu des dépouilles des séchés des sacrifiés, allongées l'une près de l'autre dans leur réfectoire, comme si la mort les avait surpris pendant qu'ils dormaient. Voilà encore l'un de ces moments historiques qu'il convient de remettre en perspective afin de se représenter les sentiments qu'ont pu éprouver ceux qui les ont vécus. Depuis que vous êtes en âge de saisir la nature des choses, de comprendre le bien et le mal, depuis que vous avez commencé l'entraînement qui a fait de vous des purgateurs, vous vous êtes tous recueillis au sanctuaire, vous avez tous prié devant les cinq bienheureuses dépouilles des sacrifiés, vous avez pleuré non seulement leur mort, mais leur lignée d'enfants qui n'ont pu naître. Or, sous le manteau lumineux de gloire que notre connaissance a drapé sur leurs épaules, les sacrifiés étaient d'abord et avant tout des hommes, aux rêves grandioses, que la science en soit bénie, mais des hommes tout de même. Comprenez aussi que nous savons, nous, ce qui s'est passé. Nous savons qu'entre la mort des sacrifiés et l'éveil de Gabriel, il s'est écoulé plus d'un siècle. Le premier réveillé ne savait rien de tout cela. À l'effroi existentiel que représentait le mutisme de Latanor s'ajoutait une déchirante compréhension. Cinq de ses frères étaient morts, et, avec eux, 10 fœtus. Comme Gabriel l'expliquera plus tard à ses exégètes, il eut l'impression, en découvrant les sacrifiés, qu'une main démoniaque s'était enfoncée dans son ventre pour tordre son utérus et y broyer les innocents fœtus dont il avait la sainte garde. Une sensation, hélas, qui se répéterait au fur et à mesure qu'il prendrait la mesure de l'état désastreux de Latanor. Mais n'anticipons pas. Plus tard, nous survolerons des périodes plus vastes. Pour l'instant, essayons de suivre Gabriel et d'assister en imagination, malgré les générations qui nous séparent, à chacune de ces illuminations. En dépit de l'état dans lequel se trouvaient les dépouilles de ses compagnons, Gabriel les reconnut tous. Il s'agissait d'Enguerrand, leur capitaine, de Bienvenu, son second, et des trois meilleurs ingénieurs de l'équipage. Le premier réveillé comprit sur le champ que ce n'était pas le hasard qui avait conduit à leur éveil mortellement précoce, mais leur qualité. Ils avaient dû parer à une grave panne de la matrice. De la même manière, Gabriel sut que son propre éveil était la conséquence directe de sa position dans la hiérarchie, qu'avec le décès d'Enguerrand et de Bienvenu, c'était à lui qu'incombait la responsabilité de la glorieuse mission vers lumière. Premier réveillé. C'est sous ce nom que ses descendants le désigneraient, car Gabriel l'était doublement. Premier dans le temps, mais aussi premier dans la hiérarchie. Remettant à plus tard l'examen approfondi des saintes dépouilles, Gabriel emprunta l'ascenseur vers le cœur de Latanor, là où l'esprit de cette dernière était engoncé. Bravant la sensation de chute libre et le froid glacial, Gabriel contempla le tabernacle protecteur, à la fois terrifié par le silence qui régnait dans ces lieux et soulagé de constater que ce n'était pas à la suite d'une dysfonction que Latanor s'était tue, mais bien parce que son esprit avait été sciemment retiré du tabernacle. Sans maîtriser toute la science des intelligences mécaniques, Gabriel devina que c'était pour protéger la mémoire qu'on l'avait extraite et entreposée de façon aussi ordonnée et méthodique. Il vit aussi qu'un souffle de conscience palpitait toujours au sein de Latanor, suffisamment, il le supputa à ce moment, et cela lui fut confirmé par la suite, pour garder les alvéoles en fonction, et donc leur précieux contenu en vie. Activé par la présence humaine, une fenêtre éclaira la pénombre glacée. Gabriel s'approcha du mieux qu'il put, en raison de l'apesanteur régnant dans le moyeu de Latanor. Dans la fenêtre apparut Enguerrand, son valeureux capitaine, son vertueux compagnon, qui s'adressa à lui à travers le temps et l'entropie. Il est inutile de répéter ici les paroles que vous avez maintes fois entendues pendant votre éducation scientifique. Le regard noyé par les larmes, Gabriel écouta son capitaine expliquer que son réveil à ce moment et dans ces circonstances signifiait que, en dépit d'embûches presque insurmontables, Latanor avait désormais atteint l'orbite de lumière et qu'il était temps pour Gabriel de réveiller ses compagnons. Ce dernier quitta aussitôt le cœur de la matrice pour descendre vers l'anneau, ses pensées traçant les linéaments du grand ouvrage que le destin avait mis sur ses épaules. Ainsi se termine le récit de la redécouverte de Latanor par le premier réveillé, qui forme dans le temps l'harmonique parfaite de la durée de son éveil. 64. La vie est sublime dans la pensée. Pour le premier éveillé, rien ne pouvait dépasser en urgence la reconstitution de l'esprit de l'Athanor, mais pour cela, il lui fallait l'aide de ses frères ingénieurs. Faure, Collard et Polonceau, les plus nobles des savants, étaient allongés auprès du capitaine et du second, les yeux clos pour l'éternité. Gabriel parcourut le couloir où s'alignaient les alvéoles. Parmi tous ses frères qui possédaient la science nécessaire, il choisit Cléry et Amasie. Le rituel d'urgence fut envoyé à leurs alvéoles afin que celles-ci activent les mécanismes de réveil. Une fois cette tâche accomplie, Gabriel s'effondra. Comment aurait-il pu en être autrement? Depuis son réveil, il n'avait ni bu, ni mangé. La honte l'envahit. Distrait par la gravité des événements, il avait négligé les besoins de son corps, lui qui portait, dans ses fluides et dans son utérus, les semences de l'humanité future. Gabriel trouva de la nourriture et de l'eau et se sustenta. Puis il retourna auprès des alvéoles afin d'être présent lorsque ses frères s'éveilleraient, ce qui montre jusqu'où allait la bonté de son cœur, lui encore perclus de douleurs physiques et spirituelles, et néanmoins anxieux d'épargner à ceux qui allaient s'éveiller des tourments qu'il avait connus. C'est Cléry, nul ne saurait l'ignorer, qui, le second, fut libéré de l'alvéole. Il lui fut épargné la chute ignominieuse qu'avait subie Gabriel. Au lieu de tomber sur un plancher dur, il fut accueilli par des bras qui le serrèrent contre un cœur attendri. Quel bel exemple de vertu qu'un homme aussi éprouvé se transmue si rapidement en soigneur, en consolateur. Avec une tendresse fraternelle dont la seule évocation émeut aux larmes, Gabriel posa délicatement Cléry sur une couche improvisée, puis le libéra des sondes qui le reliaient à l'alvéole, atténuant d'un baiser ou d'une caresse chacun des sévices qu'il lui faisait subir. Le premier éveillé dut interrompre ses soins, car déjà il lui fallait accourir à l'ouverture de l'alvéole d'Amasie. Las, l'alvéole vomit un fluide infect et souillé duquel Gabriel s'écarta en suffoquant de consternation. Encore une fois, l'entropie avait eu raison de la vie. Elle avait ravi à lumière un autre de ses trésors, une autre irremplaçable trinité. Gabriel, ébranlé jusqu'à la plus infime de ses fibres, mais toujours déterminé à ne pas se laisser abattre, retourna au chevet de Cléry. Il pansa son compagnon, le vêtit, et lorsque le second éveillé fut suffisamment lucide pour comprendre ses paroles, il lui rapporta tout ce qu'il avait vu et vécu, et lui expliqua la raison pour laquelle il l'avait choisi. Cléry demeura d'abord immobile, son auguste visage frappé d'une morne stupeur. Puis son âme se porta au-delà de la tragique immédiateté. Il caressa son ventre et celui de Gabriel. Puis il dit « Prions la science pour que nos enfants aient survécu. » « Ils dépendent de nous, comme nous dépendons de l'Athanor, » répondit Gabriel. « Il faut donc que nous remettions l'esprit de la matrice en fonction. En serez-vous capable ?»« Je ne saurais le promettre avant d'avoir pris connaissance de son état, que notre noble capitaine Enguerrand, dont je pleure la perte, ait ordonné que l'on prive l'Athanor de ses pensées, est le premier mystère de tous. » Après ces paroles, les deux hommes se sustentèrent et se reposèrent. Leurs membres ne retrouveraient pas avant longtemps leur vigueur normale. Puis ils retournèrent dans le moyeu. Cléry examina le tabernacle et les mémoires entreposées dans des caissons protecteurs. Il déclara qu'il savait ce qui devait être fait. Il leur fallut du temps, car les deux premiers éveillés devaient retourner souvent se réchauffer dans l'anneau. Mais l'Athanor recouvra suffisamment ses facultés pour bientôt s'adresser à ses enfants. « Glorieuse est la science qui a prévalu à votre survie !» furent ses premières paroles, dûment inscrites dans les registres. « J'ai subi d'importantes avaries, mais avant de vous relater les événements d'importance survenus pendant votre sommeil, il importe que vous complétiez la réintégration de ma mémoire, afin que je puisse éveiller tous vos frères. » Enfin guidés dans leur tâche par l'Athanor elle-même, Gabriel et Cléry ne tardèrent pas à remettre pleinement son esprit en fonction, si bien que, lorsqu'ils retournèrent dans l'anneau pour s'accorder un peu de repos, ils furent accueillis par la lumière et le bruit des couches se positionnant face aux alvéoles en plein processus d'éveil. Puis ils descendirent au poste de commande, tout près du réfectoire où les dépouilles de leurs frères reposaient. En cet endroit aussi, la lumière retrouvée avait repoussé la pénombre, tandis qu'une lueur rassurante émanait des écrans de contrôle. Il revint à Gabriel l'honneur et la responsabilité de présider aux commandes de l'Atanor. Il prit place au poste principal et, emporté par le premier mouvement de son cœur, désir le plus naturel qui soit, il s'informa de la position de l'Atanor. Malgré les épreuves qu'ils avaient subies, les deux premiers éveillés sentirent des larmes d'émotion mouiller leurs joues en apprenant que l'Atanor était sur le point de se placer en orbite autour de lumière. Ils arrivaient à bon port, le gouffre de l'espace avait été franchi. Leurs épreuves n'avaient pas été vaines. Gloire à la science, une et indivise. Ainsi se termine le récit de la renaissance de l'Atanor, dont l'étendue dans le temps est 8 fois, nombre parfait et harmonieux, celle de la redécouverte. 512. La pensée est sublime dans la science. De toutes les glorieuses narrations relatant l'arrivée de l'humanité sur Lumière, la suivante est celle où les fils de la joie et ceux de la douleur sont noués de la manière la plus inextricable. Joie et douleur, tout d'abord, à l'éveil des compagnons de Gabriel et de Cléry. Joie incommensurable d'assister à la renaissance simultanée d'autant de leurs frères. Et douleur de constater que l'entropie ne s'était pas satisfaite d'Amazie. Nos larmes ont à s'écouler. Nous ne répéterons pas ici les noms de ceux qui ne s'éveillèrent jamais. Des 64 enfants de l'Atanor, seuls 37 survécurent. Voilà bien le plus cruel et éloquent symbole du pitoyable état dans lequel se trouvait la matrice en cette aube de l'humanité. Que du nombre originel, circulaire, riche, flexible, que du nombre parfait multiplié par sa propre perfection, le glorieux équipage des éveillés fut réduit à 37. 37. Joie et douleur dans la simple évocation de ce chiffre irréductible, tout en aspérité douloureuse et pourtant à jamais associée dans notre mémoire à la plus noble des entreprises. On comprendra que le premier mouvement des premiers éveillés eût été de connaître ce qu'il était advenu pendant leur sommeil, de comprendre comment l'Atanor avait pu faillir à ce point et dans quelles circonstances leur bien-aimé capitaine Enguerrand et ses 4 compagnons avaient dû se sacrifier. À point nommé, Gabriel assembla ses frères et tous écoutèrent l'Atanor leur relater ce qui s'était passé. Il est dans la nature de votre jeunesse, frère purgateur, de n'apprécier la douleur que par son vecteur charnel. Maintes fois vous avez versé des larmes brûlantes lors d'un exercice rigoureux ou d'une épreuve destinée à nous garantir la trempe de votre morale. Bienheureuse naïveté que la vôtre. L'existence se chargera de vous prodiguer des outrages plus douloureux que l'excoriation des chairs, plus désespérants que le défaut des choses nécessaires à la vie. De toutes les épreuves qu'eurent à subir les premiers éveillés, la pire fut morale. Et elle survint lorsqu'ils apprirent que l'Atanor n'avait pas été victime d'un accident, mais bel et bien d'une attaque délibérée venue de la terre primordiale. Il est évidemment difficile à des jeunes purgateurs comme vous de comprendre comment les hommes primitifs ont pu en venir à se rebeller contre la plus glorieuse et la plus sainte de leurs entreprises. Faut-il voir en cette inconstance la terrible conséquence de leur incomplétude sexuelle? L'histoire préluminique en donne main récit, tracé en caractère de sang. Ce que l'on a pu établir de notre examen des annales, c'est que plusieurs décennies après le départ des matrices, un orage qui se formait depuis quelque temps sur Terre avait fini par éclater. Des penseurs qui, sous le nom de philosophes, s'attachaient à changer toutes les idées, à dénaturer tous les principes et à corrompre tous les cœurs, avaient préparé une terrible révolution. De grands talents, unis à beaucoup de perversité, avaient donné aux principaux chefs d'une nouvelle secte le plus fort ascendant sur la majorité des hommes peu éclairés ou soumis à leur incoercible passion sexuelle, désespérante par leur incomplétude. Une science pervertie par des mains sacrilèges avait été mise à contribution pour fabriquer des engins de destruction, dont l'obscène but était de détruire les matrices. Bientôt, dans le sillage de chacun des magnifiques cocons de vie, s'étaient élancés de multiples engins de mort. Heureusement, de trop rares terriens eurent la force et le courage de rester debout au milieu de la tourmente. Ils réussirent à avertir les matrices du sort qui les attendait, afin qu'elles puissent envisager toutes les mesures possibles pour assurer leur protection. Or, les matrices étaient des instruments de vie, non de mort. C'est l'amour qui avait présidé à leur conception, non la haine. Leur douceur était celle du sein paternel, leur fragilité celle de l'utérus. On les avait conçus pour se protéger des aléas d'un périple interstellaire, non d'une attaque délibérée. Néanmoins, une fois prévenu, l'Athanor modifia ses senseurs afin de scruter l'espace avec une attention redoublée. Lorsque, près d'une décennie plus tard, elle aperçut trois sources d'énergie suspectes entre elle et la Terre, elle éveilla le capitaine Enguerrand pour solliciter son conseil. Cruelle décision, car en agissant ainsi à une aussi grande distance de leur destination, elle le condamnait à ne jamais fouler du pied le sol de lumière. Nous ne relaterons pas tous les détails de la lutte d'Enguerrand et de ses quatre frères sacrifiés pour sauver l'Athanor. Ils sont connus de tous. Contentons-nous d'imaginer l'impact que ce récit dut avoir sur les éveillés, qui se trouvaient bel et bien en orbite de lumière, mais à bord d'une matrice blessée dans sa structure et son esprit, avec une seule navette de transbordement au lieu des quatre qu'ils transportaient à l'origine. À ces révélations s'en ajoutèrent de nouvelles, moins dramatiques de prime abord, mais qui s'avérèrent encore plus troublantes une fois que les éveillés furent suffisamment remis de leurs inquiétudes immédiates. Ayant repris le contrôle des instruments de navigation et de communication de l'Athanor, Gabriel et ses frères tentèrent de capter la voix de chacune des sept autres matrices. En lieu et place du filet rassurant des données, ils ne captèrent que le bruissement chaotique de l'espace profond. Sachez, frères purgateurs, que la nécessité d'un contact ininterrompu était inscrite au plus profond de la mémoire des matrices. Malgré toutes ces avaries, jamais l'Athanor n'avait cessé de transmettre et de recevoir. Or, les derniers messages inscrits dans les registres dataient de plus d'un siècle, et il fallut peu de temps aux éveillés pour en déchiffrer l'essentiel. Les sept autres matrices avaient bel et bien reçu les avertissements de la Terre, et toutes avaient pris des mesures pour assurer la survie de leur équipage, mais la distance qui les séparait, et les délais de transmission qui en sont la conséquence, les avaient empêchés d'adopter une stratégie commune. Pendant des années, chaque matrice avait transmis aux autres le détail de ses préparatifs et de ses combats. Ces archives, que nos savants ont depuis étudiées en profondeur, étaient trop vastes pour être analysées à ce moment par Gabriel et ses compagnons. Ils en comprirent du moins l'essentiel, aussi éprouvante qu'ait pu s'avérer cette compréhension. Malgré tous les efforts de leur équipage, les sept matrices avaient un jour cessé de transmettre. Le huitième jour, suivant son éveil dans l'humeur de l'alvéole, sa chute sur le sol dur et son errance dans l'Athanor assombri, oui, ce huitième jour, rasséréné quelque peu par le passage d'un nombre parfait de jours depuis son retour à la lumière, Gabriel appela ses frères et compagnons d'équipage, et ces derniers vinrent tous à l'appel de leur chef. Leurs regards tristes convergèrent vers Gabriel, des regards remplis d'amour, de cet amour qu'ils avaient rapporté d'Enguerrand à celui qui, maintenant, assurerait le rôle de capitaine. Et dans les yeux nobles du premier réveillé se refléta la même tristesse, certes, mais également la résolution, et oui, oui, le même amour, multiplié par 8, par 64, par tous les multiples du chiffre parfait décliné jusqu'à l'infini. Et c'est dans ces termes que Gabriel s'adressa à ses compagnons. « Mes frères, j'aurais voulu vous épargner les tourments que nous traversons, mais les sentiments que nous ressentons pour nos frères défunts ne devront pas nous empêcher d'accomplir notre destinée. Il nous faut aussi reporter à plus tard les préoccupations que nous cause le silence des autres matrices et nous concentrer sur notre propre situation. En chacun de nous palpitent deux précieuses parcelles de vie. Toute vie est sublime, mais à cause de la disparition de nos compagnons tant aimés et de leurs précieuses charges, la survie des enfants à venir s'auréole d'un caractère d'urgence sacrée. Les terres fertiles de lumière nous attendent, toutes proches, mais ce sont des terres frustes. Il ne reste qu'une seule navette de transbordement au lieu des quatre d'origine. Prions pour qu'elle fonctionne, car nous aurons moins de 8 mois pour nous établir et pour bâtir le berceau de l'humanité nouvelle. Beaucoup moins de 8 mois en vérité, car avec chaque jour qui passe, la vie qui se déploie dans notre sein accapare une part plus grande de nos forces. Il nous faudra donc être, paradoxe ultime, à la fois infiniment audacieux et infiniment prudent. Nos gènes précieux, épurés de la gangue originelle par la science, sont encore plus précieux du fait de la disparition de la moitié d'entre eux. Leur diversité est d'autant plus essentielle. Nous ne pouvons plus nous permettre un seul sacrifice, nous devons tous survivre. Toi, Louis, toi aussi, Courty, toi aussi, aimable Cléry que j'ai tenu contre ma poitrine. Nous voilà tous chargés de la mission la plus noble, la plus grande de toutes, et c'est de la valeur de nos mains, de nos intelligences et de nos utérus que dépend la survie de l'humanité. » C'est sur ces paroles de Gabriel que les éveillés entonnèrent d'une même voix cette prière parvenue jusqu'à nous. Le réel est sublime dans la matière est sublime dans la vie est sublime dans la pensée est sublime dans la science, et tout est en toi, science, une et indivise. C'est dans ta lumière, dans toutes tes harmoniques, que l'on distingue, en leur véritable nature, le réel est la matière, la vie est la pensée. Et c'est sur cette prière que se termine l'évocation du troublant message de l'Athanor aux éveillés.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite des aventures de Gabriel au prochain épisode. Nous vous rappelons qu'Utopod est une émission produite bénévolement et que l'écoute de nos épisodes sera toujours gratuite. Toutefois, nous avons pour but à moyen terme de rémunérer nos auteurs. Pour cela, nous comptons sur votre soutien. Vous pouvez nous faire un don en cliquant sur l'icône euro en bas de notre site www.utopod.com. Autre moyen de nous soutenir, parlez d'Utopod autour de vous. Faites-nous de la pub. Le nombre de nos abonnés est très important. Non seulement il nous encourage à persévérer, mais il nous permettra aussi, à terme, de démarcher des sponsors. Nous produisons ce podcast de manière professionnelle. Nous apportons le plus grand soin à nos contacts avec les auteurs, nous choisissons des textes de qualité et les éditons méticuleusement. Enfin, nous enregistrons la lecture des nouvelles, éditons les fichiers sonores et les diffusons dans le seul but de satisfaire vos oreilles exigeantes. Il ne manque qu'une dernière condition à la totale professionnalisation d'Utopod, la rémunération de nos auteurs et de nos lecteurs. Vous l'aurez compris, Utopod, c'est votre podcast et nous comptons sur vous pour nous aider comme vous le pourrez. En nous faisant un petit don à l'occasion ou en parlant d'Utopod au travail, à la maison, au supermarché, au bord de la mer et même au lit. Bref, aussi souvent que vous le pourrez. D'avance, nous vous remercions et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye! Putain.